Merci de nous rejoindre sur Radio Orient avec vous, Nadia Bencher, pour le point de l'actualité de 17h. Voici les titres de cette édition. Le président libanais décline la demande américaine d'entretien direct avec Israël. Dans le même temps, le Hezbollah appelle à arrêter les concessions gratuites à l'égard des Américains et des Israéliens. La Syrie reprend le contrôle de toutes les bases militaires américaines présentes sur son territoire. Un transfert effectué en coordination totale avec Washington. Dans le dossier du jour, nous reviendrons sur le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit d'Ormuz avec l'analyse de Kevin Gafaiti, spécialiste de l'Iran. Nous évoquerons également la situation explosive au Liban. Le chef de la diplomatie française appelle à un cessez-le-feu et à un retour aux arrangements négociés en 2024 avec Washington. Nous l'entendrons tout à l'heure. Enfin, nous parlerons de ces initiatives qui se multiplient. Elles visent à protéger les enfants des méfait des réseaux sociaux, nous dira Marc-Aurel Barrez. Bonjour, le président libanais remercie Donald Trump pour ses efforts en vue d'un cessez-le-feu avec Israël, des propos qui interviennent après son refus de la demande américaine d'un contact direct avec Benjamin Netanyahou. D'après une source officielle, Joseph Aoun en a informé le secrétaire d'État Marco Rubio, précisant que Washington comprend la position du Liban. Cette décision intervient alors que Donald Trump avait évoqué un échange entre les dirigeants des deux pays, toujours officiellement en état de guerre. Un peu plus tôt, le Hezbollah avait jugé qu'une négociation directe avec Israël serait, je cite, une grave erreur. Son député Hussein Haj Hassan dénonce aussi de possibles concessions gratuites de Beyrouth envers Washington et Israël. Au Liban, toujours, le secrétaire d'État britannique chargé du Moyen-Orient appelle à un cessez-le-feu entre elle et le Hezbollah en visite à Beyrouth. Hamish Falconer estime que Beyrouth ne porte pas la responsabilité de ce conflit et juge urgente l'arrêt des frappes et la protection des civils. En Iran, le président du Parlement affirme qu'un cessez-le-feu au Liban est, je cite, aussi important qu'en Iran. Mohamed Bagher Alibaf dit suivre de près la situation libanaise après un entretien avec Nabih Berri. Il évoque la volonté de Téhéran d'imposer un cessez-le-feu permanent dans toutes les zones de conflit, une référence directe à l'accord de trêve conclu le 8 avril avec les États-Unis. Un peu plus tôt, Mohamed Bagher Alibaf s'entretenait avec le chef de l'armée pakistanaise Asim Munir. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts en cours pour relancer de possibles pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. La délégation pakistanaise était arrivée la veille en Iran au moment où Washington évoquait une possible deuxième session de négociation. Le lieu exact de l'entretien n'a pas été précisé par les médias d'État iraniens. La Syrie affirme avoir repris le contrôle de l'ensemble des anciennes bases militaires américaines présentes sur son territoire. Damas annonce une remise complète de ces sites au gouvernement syrien. Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, ce transfert s'est déroulé en coordination totale avec Washington. Les forces américaines étaient déployées depuis des années en Syrie dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique. Le nombre de déplacés forcés pourrait augmenter de 4,2 millions d'ici 2027, alerte le Conseil danois pour les réfugiés. L'ONG souligne que ce chiffre ne tient pas compte de la situation actuelle au Moyen-Orient et viendrait s'ajouter aux 117,3 millions de personnes déjà déplacées dans le monde. L'organisation dénonce un recul de l'aide internationale au moment même où les conflits et les violences continuent de s'aggraver. En France, les députés macronistes retirent la proposition de loi Yadin sur l'antisémitisme de l'ordre du jour à l'Assemblée. Le groupe Ensemble pour la République invoque l'obstruction de la France insoumise et annonce avoir obtenu du gouvernement le dépôt d'un projet de loi. Ce nouveau texte doit être présenté la semaine du 22 juin. Il prendra le relais de la proposition initiale. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, en place à présent au dossier du jour. Le bras de fer se poursuit entre Téhéran et Donald Trump autour du détroit d'Ormuz. L'Iran menace de couler des navires américains dans cette zone stratégique. Dans le même temps, Washington évoque la possibilité d'une deuxième session de négociation avec Téhéran et se dit optimiste quant aux chances d'un accord. Cette séquence intervient après la menace iranienne de bloquer la circulation en mer Rouge en réponse au blocus américain de ses ports. Dans ce contexte, quels éléments pourraient plaider en faveur d'une prolongation du cessez-le-feu de 2 semaines en vigueur depuis le 8 avril? Les explications de Kevan Gafaiti, spécialiste de l'Iran, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris.
Comme vous le dites, on a un cessez-le-feu qui est très branlant, mais qui est relativement fonctionnel. Ça fait un peu plus d'une semaine et on n'a pas eu une reprise massive des hostilités entre les États-Unis, Israël d'une part, l'Iran d'autre part. Vous avez toujours un seuil de tension qui est extrêmement élevé, puisque vous l'avez aussi dit, on a un blocus américain sur les ports iraniens qui se juxtaposent, se superposent au blocus iranien du détroit d'Ormuz par rapport au golfe Persique. Et maintenant, par rapport à votre question, est-ce qu'il est possible de voir un cessez-le-feu se prolonger ? Eh bien, il y a quelques signaux faibles qui nous font peut-être penser qu'effectivement cela pourrait se faire. Déjà, il y a les déclarations pakistanaises qui disent, écoutez, on a un cessez-le-feu qui est théoriquement toujours fonctionnel et nous, on appelle toujours les parties à négocier. Et surtout, vous n'avez pas, je dirais, une fermeture complète des canaux interposés de discussion. C'est-à-dire que les États-Unis continuent de dire, eh bien, écoutez, nous, on estime qu'on devrait demander X, Y à l'Iran. Et l'Iran dit, pour qu'il y ait une cessation des conflits, on doit aussi demander X, Y. Donc vous avez des demandes pas directement formulées, ça c'est important de le mentionner, qui nous font comprendre que la voie de la discussion, même indirecte, n'est pas tout à fait close des deux côtés.
Alors, un pays est une victime collatérale de ce conflit. Il s'agit bien entendu du Liban. Le Hezbollah a attaqué Israël. Israël qui a riposté de manière particulièrement ferme. Le Liban qui semble victime de cette guerre aujourd'hui, avec un mercredi noir il y a 8 jours. Comment ce pays peut-il être aidé aujourd'hui et par qui ?
Le Liban paye les pots cassés du conflit israélo-américano-iranien. Quelles sont les personnes, les acteurs, les actrices qui vont aider justement le Liban? Déjà, il faut le souligner, la France, qui avait déjà apporté début mars plus de 60 tonnes d'aide humanitaire au Liban, qui apporte un certain soutien diplomatique. Et surtout, je pense, quelque chose d'assez notable indirectement pour le Liban, c'est la distanciation très large entre la France et Israël. Je pense que vous avez dû voir hier les déclarations israéliennes, c'était incroyable, et pas nécessairement dans le bon sens du terme. On avait une question qui était posée à l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, que pensez-vous de la France qui se tient à part de ces négociations? L'ambassadeur israélien qui disait, non, on est très content, il faut que la France se tienne le plus loin d'Israël partout. Alors que d'habitude, Israël et la France sont assez alignés, et la France qui a répondu très rapidement dans la voix de son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui disait, je pense que l'ambassadeur israélien doit se tenir à distance de tous les médias. Donc vous voyez qu'il y a une rupture diplomatique. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Cela veut dire qu'en fait, vous avez une forme de distanciation d'Israël et c'est là où les Européens peuvent entrer un peu plus peut-être dans le jeu.
Kevan Gafaiti, spécialiste de l'Iran, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris, au micro de François-Xavier de Calonne. Il doit impérativement y avoir un cessez-le-feu au Liban. C'est l'appel lancé ce matin par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il affirme que Paris est favorable à un retour aux arrangements négociés en novembre 2024 avec Washington en vue d'une désescalade. On l'écoute.
Il doit impérativement y avoir un cessez-le-feu au Liban, que nous puissions revenir aux arrangements qui avaient été trouvés grâce aux efforts déployés par les États-Unis et la France au mois de novembre 2024, qui avaient permis de mettre fin à une escalade meurtrière au Liban. Et que sur cette base-là, un travail coordonné entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien puisse s'engager pour désarmer le Hezbollah, pour restaurer l'autorité de l'État libanais qui doit disposer du monopole des armes de manière à être en capacité d'assurer la sécurité sur l'ensemble de son territoire au profit de toutes les communautés du Liban et à vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Les, les attaques du 8 avril dernier qui ont ensanglanté le Liban et fait en moins de 10 minutes plusieurs centaines de morts qui viennent s'ajouter aux 1500 morts au Liban depuis le début de cette offensive étaient intolérables. Nous les avons condamnées avec la plus grande fermeté, notamment parce qu'elles ont fragilisé un cessez-le-feu qui avait été trouvé entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi parce que le Liban ne doit pas être la victime expiatoire de dynamique régionale ou de guerre qu'il n'a pas choisi, et que détruire le Liban ne permet pas de détruire le Hezbollah, au contraire, cela le renforce.
Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Instaurer une journée mensuelle sans connexion pour les plus jeunes, c'est l'appel lancé ce jeudi par Emmanuel Macron pour le président français. Moins d'écran, c'est plus de lecture ou de sport. Une déclaration qui intervient alors que partout dans le monde, des initiatives visant à protéger les enfants des méfaits des réseaux sociaux se développent. On voit ça avec vous, Marc-Aurèle Barrès.
Oui, lors d'une visite à la Cité internationale de la langue française ce jeudi, le président, devant un parterre d'adolescents et de journalistes, a vivement critiqué les écrans, facteurs de solitude, d'inattention, du temps volé à la lecture ou au sport, un poison même qui rend addict et voûté les personnes qui tapent sur leur portable. Le chef de l'État n'a donc pas été tendre avec ces appareils qui régissent aujourd'hui le quotidien de nos adolescents. Alors pour leur permettre de retrouver la vitalité de la vie réelle, fin de citation, le président et son ministre de l'Éducation ont expliqué vouloir lancer cette initiative, une journée sans connexion une fois par mois, à partir de septembre.
Les écrans, oui, mais surtout les réseaux sociaux. Où en est la proposition de loi qui doit les interdire pour les moins de 15 ans?
Elle a été adoptée en janvier en première lecture par l'Assemblée nationale, mais le texte a été modifié par le Sénat et doit encore être débattu en commission mixte paritaire. L'exécutif, lui, mise sur une entrée en vigueur en septembre. Alors, il faut comprendre que pour Emmanuel Macron, ce projet de loi, c'est son cheval de bataille de fin de mandat. Avec la présidente de la Commission européenne, il souhaite aussi aboutir à un dispositif d'interdiction coordonné à l'échelle européenne.
Qu'en est-il maintenant de l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes dans le monde ?
Alors, en Europe, au moins 16 pays planifient ou ont déjà des restrictions d'accès à ces plateformes. Par exemple, la Grèce, l'Autriche ou encore la Norvège ont annoncé leur ambition de limiter les contenus disponibles pour les plus jeunes. Mais les pays européens ne sont pas les seuls à vouloir réglementer. Par exemple, l'Australie interdit depuis fin 2025 les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le Brésil, depuis mars, restreint l'accès à des mineurs aux contenus violents ou illégaux. L'Indonésie et la Chine ont déjà aussi agi en ce sens.
Merci Marc-Aurèle Barrès pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Excellente suite de programme à notre écoute.